Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Le point.
Citoyennes, citoyens, bienvenue dans le Tacle de l'Euro, le podcast du point sur l'Euro. Alors aujourd'hui, nous allons bien sûr revenir sur cette soirée que seul le foot circus peut nous offrir avec un invité de dernière minute. Alors aujourd'hui, dans l'équipe du Tacle, il y a deux piliers. Un appelé de dernière minute et un fourré classe, comme on dit en Italie. Par sa précision et sa rigueur, il nous fait tous trembler. Sa majesté, Adrien Mathieu. Salut Adrien.
Salut Florent, salut à tous.
Par sa naïveté et sa faconde, il nous attendrit. Le petit prince de Saint-Malo, Olivier Perroux.
Bonjour à tous, je suis très content d'être là aujourd'hui.
Par son sens de la répartie et même sa méchanceté, il nous inquiète. Le génie de la VAR, Emmanuel Durger.
Bonjour.
Et il faut ce genre de voix dans un podcast, il faut un héros, et ce héros, c'est Stéphane Guy. Bonjour Stéphane.
Merci Florent pour cet hommage répété, merci beaucoup.
Bravo,
merci
beaucoup. On est ravis de vous avoir.
On se sent entre amis en effet.
Alors on se tutoie, merci d'être là, on est vraiment ravis. Là on a un spécialiste enfin autour de la table, ça nous change des autres podcasts. tu as accepté de venir.
On se tutoie mais on restera impitoyable sur les jugements.
Impitoyable. Et on sort le carton rouge.
Tout à fait.
On sans pas hésitation. Hésiter. Bon, Emmanuel Durger, de toute façon, le sort tout le temps, carton rouge, surtout contre moi. Alors, petit rappel du concept, chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative. Vous savez qui à Canal disait sanction administrative?
Oui, bien sûr, Gilles Vessière.
Tout à fait.
Le premier d'entre eux.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est un carton rouge ou un carton jaune. Et on va commencer par Olivier. Et je ne sais pas pourquoi, je le sens très mal, ce tacle.
C'est surtout qu'il vous est destiné, cher Florent. Moi, je voudrais faire un tacle contre les anti-Benzema, les anti-VAR, soit deux des choses quand même qui nous ont fait gagner hier. Bref, un tacle contre les anti-France. Alors, une petite anecdote, chers amis. Florent, hier, on regardait le match, pas ensemble, on discutait par message interposé. Il était sur le point de vous écrire aujourd'hui un tacle contre Benzema. Puis finalement, il a marqué un but, donc il s'est un peu ravisé. Je ne vous parle pas, évidemment, de toutes les diatribes de Florent contre la VAR sur le site du point, que je vous invite à lire, d'ailleurs. Bref, je voudrais retourner au foot, quand même. On va parler foot, on est là pour parler foot. Alors, à l'aube de ce match, Karim Benzema avait tiré plus de 30 fois au but sans marquer. C'est vrai, c'était une statistique assez difficile pour lui. Il avait égalé un triste record battu par... un triste record qui était celui d'André Iniesta et Clarence Seedorf, qui avait tiré plus de 30 fois, 34 fois et 33 fois dans divers euros, sans marquer. Mais on le sait quand même, ce n'est pas facile d'être un avant-centre sous Didier Deschamps. C'est le jeu qui veut ça. Il suffit de demander à Giroud. Olivier Giroud ne vous dira jamais le contraire. Alors au lieu de taper sur Benzema, je préférais qu'on tape sur les piètres performances du soi-disant meilleur attaquant au monde, Kylian Mbappé. Je terminerai quand même en citant Antoine Griezmann en conférence de presse au sujet de Karim Benzema. Quand il mettra un but, le robinet sera ouvert et ça va couler. Il en a mis deux hier, ça va être un tsunami. Vive la République et vive Benzema.
Oh là là, Olivier est très en forme. Je vais demander à la VAR d'intervenir et il va nous repasser un petit extrait, l'extrait du podcast d'hier. Avec un doublé de Karim Benzema.
Après cet extrait, c'est bien la preuve que les journalistes changent tout le temps d'avis.
Non, mais je suis assez effaré de ton tacle, Olivier. Mais je vais laisser d'abord nos amis répondre. Et puis après, je m'occuperai de ton cas. Stéphane, carton rouge, carton jaune ou tacle régulier?
Il était presque régulier, ce tacle. Et puis Le contempteur de l'anti-France est devenu anti-France UM en essayant d'opposer les joueurs français entre eux, ce qui est vraiment très lâche. Ce qui est très lâche, qui ne sera pas productif. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce genre de débat. Donc, moi, je mettais 2 à Benzema jusqu'à la 40e minute du match d'hier. Et puis après, je lui ai mis 12 ou 14 sur 10. Donc, il a fini par avoir 7 dans la note que je lui ai donnée. Pratiquement le français le mieux noté. On en reparlera tout à l'heure. Et évidemment, c'est un immense soulagement qu'il ait marqué ces 2 buts hier. Faut du cran, faut beaucoup de cran dans sa situation pour prendre ce pénalty dans le temps additionnel. Le but, le deuxième qu'il marque, est somptueux. C'est un vrai but de numéro 9, un vrai but d'attaquant comme il en marque si souvent avec le Real Madrid. Mais en revanche, n'allez pas commencer à nous opposer Benzema et Mbappé. On aura besoin, enfin la France aura besoin pour aller au bout de cette affaire de Benzema. Et je pense qu'effectivement, comme le dit si bien Griezmann, le robinet est ouvert. Et aussi forcément du génie français, Kylian Mbappé, qui, s'il n'est pas encore complètement brillantissime depuis le début de l'Euro, j'en conviens, est quand même dans tous les bons coups. Il n'y a quasiment rien qui se passe sans qu'il soit concerné, Kylian Mbappé.
Mais est-ce que voilà, les 2 buts de Benzema hier annulent tout le début de l'Euro qui était très décevant? Est-ce qu'on peut effacer ces performances décevantes?
Je crois qu'il y a 2 éléments, de mon point de vue, pour Benzema. D'abord, il y a une question physique qui se pose. Benzema, c'est un joueur du temps où il était associé à Ronaldo Real Madrid, qui était très souvent remplacé autour de la 60e, 70e minute par l'entraîneur de Real Madrid. Cette année, il a porté le Real. C'est-à-dire que non seulement il l'a porté par ses buts, par son leadership, mais aussi en jouant quasiment tous les matchs 90 minutes. Donc, c'est pas la même chanson. Je pense qu'il arrive à cet Euro un peu entamé physiquement. Et puis, deuxièmement, on peut s'appeler Karim Benzema, avoir le palmarès qu'il a, les références qu'il a, et quand même sentir la pression. Et je pense qu'il a la pression. Et ses déclarations d'après-match hier le disent bien.
Et je rajoute encore une fois, c'est pas facile d'être un numéro 9 avec Didier Deschamps. Enfin, c'est compliqué de jouer aux côtés de grands joueurs et puis de revenir s'adapter comme ça à une équipe qui a été championne du monde, qui a des automatismes. Il a fait quelques matchs, c'est vrai, de préparation, mais il n'en a pas fait beaucoup non plus. Donc, il faut parfois un peu plus de temps que nécessaire.
Adrien ?
Je rajouterais quelque chose que Stéphane a dit très juste sur la pression de Benzema. Mine de rien, ce pénalty, après une mi-temps, on peut le dire, très délicate pour l'équipe de France, il faut le tirer, il faut l'assumer. Après son raté contre le Pays de Galles, toute la pression qu'il a accumulée, et on l'a vu dans son regard qu'il était déterminé, même si vous avez vu, derrière, Pepe avait indiqué, mine de rien, à Rui Patricio où est-ce qu'il allait tirer, donc ça aurait pu mal se passer. Rui Patricio était un peu têtu et a laissé Benzema, mais après, le deuxième but, comme tu l'as dit, c'est vraiment un but d'attaquant, cette passe de Pogba merveilleuse, et le sang-froid, et mine de rien, ça fait du bien. Je pense que Griezmann l'a dit, maintenant la compétition a bien démarré, mais je trouvais que mine de rien la Hongrie c'était délicat pour lui, mais moi le match contre l'Allemagne j'ai bien aimé, je trouvais que c'était du Benzema, du Real qui faisait des remises intelligentes, donc il est pleinement lancé dans cet Euro et tant mieux pour l'équipe de France.
Non mais espérons qu'il prenne sa place et qu'il change un peu la nature de l'équipe de France, parce que, alors j'ai été attaqué par Olivier Perrou, j'en ai l'habitude. Alors moi ce que je disais c'est que Benzema n'avait pas changé fondamentalement le jeu de l'équipe de France, et si on avait mis Giroud contre l'Allemagne et contre la Hongrie, on n'aurait pas vu fondamentalement la différence.
Oui, ça c'est du football fiction, je sais pas. Je pense quand même que le jeu est différent lorsqu'il est là. Après, moi je ne serai jamais de ceux qui cracheront sur Olivier Giroud. Il a rendu trop de services à la patrie, et peut-être qu'avec Olivier Giroud contre la Hongrie, par exemple, on aurait eu un résultat différent, peut-être.
Mais moi, ce que je trouve très beau dans le match d'hier, c'est le fait qu'on ait donné ce pénalty à Benzema, parce qu'on lui a donné, le tireur officiel, normalement, c'est Griezmann. Et je pense que les Bleus, quoi qu'ils en disent, ils avaient conscience que Benzema qui ne marque pas, ça pouvait devenir un problème.
Exactement.
Et donc, en lui donnant le pénalty, il s'enlève un problème. En plus, il relance l'équipe de France. Ouais. Et puis, c'était plus du tout le même joueur.
Et ça fait plaisir aussi de voir, c'est anecdotique, je sais que c'est une compétition d'Euro, mais de voir Cristiano Ronaldo applaudir Karim Benzema, Pepe le féliciter à la fin du match.
Ça dit quelque chose de l'homme qu'il est.
Ça dit quelque chose de l'homme qu'il est, et qui, je pense, était quand même assez à distance de tout ce qu'on a pu raconter ces dernières années sur le personnage. Et finalement, sur le terrain, on voit que Karim Benzema est un grand joueur, aussi c'est être un grand joueur apprécié de ses partenaires.
J'ai beaucoup aimé sa réaction d'après-match, qui était tout en humilité, où il assumait le fait qu'il avait une pression très très lourde à supporter. Et puis il a gagné le gros lot quand même hier, parce que non seulement il marque le doublé, mais en plus il a récupéré le maillot de Ronaldo à la mi-temps.
Et puis il est homme du match.
Et homme du match.
Et sur la VAR, bon, on fera pas de commentaires parce que donc tu défends la VAR alors que la VAR n'a même pas sifflé de pénalty qui devait nous offrir la victoire, mais bon, c'est pas très grave. Hein.
Oui, le pénalty peut-être le plus évident n'a pas été sifflé, c'est ça, celui sur Coman. Ouais.
Tout à fait. Et la VAR aurait dû expulser Lloris, sans doute.
Aussi. Donc, c'est vrai voilà. Qu'il a été très très près du.
Ah, je suis pas d'accord. Je pense que.
Ah, donc on peut mettre des coups de poing à des joueurs.
Non, mais il sort avec les points. C'est vrai qu'il c'est pas non plus Anthony Lopez. On a beaucoup fait la comparaison hier sur les réseaux sociaux entre Lloris et Lopez. Mais là, non, je pense qu'il y a. Si vous regardez, disséquez bien l'action, la balle frôle d'abord la tête du Portugais et vraiment il va pour le ballon. Donc oui, il y a un coup de poing. Je pense que c'est vraiment involontaire. Le jaune est mérité. De là à mettre un rouge, ça change la physionomie du match. Franchement.
Enfin, sur la VAR, il y a trois erreurs. Donc il y a potentiellement ce carton rouge. Il y a le pénalty français qui n'est pas évident. Il ne check pas la VAR, me semble-t-il.
Moi,
et il y a ce dernier pénalty qui n'est pas sifflé. Donc. 3-1, quoi, pour la VAR. Parlons à l'expert.
Si ça vous fait plaisir, Florent.
La Durge, sur ce tacle régulier.
Il est plutôt régulier. On en avait déjà parlé un peu plus tôt de la VAR, en disant qu'il fallait sûrement réviser son esprit. En fait, la VAR, j'ai l'impression qu'elle réveille juste la mauvaise foi.
De Florent, bien sûr.
Des passionnés de football. J'entendais, alors je ne sais plus si c'est Margoton ou Demergue, dire sur un hors-jeu sifflé sur Lukaku, de 5 cm, dire il faut se poser, là c'est scandaleux, il faut se poser la question de l'esprit de la VAR. Oui, mais à partir du moment où on met la VAR, à partir du moment où on fait rentrer la technologie, on ne peut pas décider qu'on lui fait confiance sur les hors-jeux de 5 mètres et pas sur les hors-jeux de 5 cm. C'est fait justement pour contrôler l'extrême justesse des choses. Donc évidemment que ça va créer des situations, on va siffler des hors-jeux pour 5 cm et on sera très frustré, mais on ne peut pas faire appel à la VAR que quand c'est flagrant ou quand c'est pas flagrant, enfin c'est pas possible. Elle est juste là, justement là, pour révéler les choses moins flagrantes et donc les choses qui, à vitesse réelle, nous semblent scandaleuses quand elles sont sifflées après la technologie. Donc soit on prend la VAR à 100%, soit on y renonce pour de bon. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, si ce n'est que je risque de perdre quand même mon emploi.
Et sur Benzema, vous faites partie de l'anti-France ?
Moi, je ne fais plus de commentaires sur Benzema qui me donne beaucoup trop tort. Je sais me taire quand j'ai tort, voilà.
Oh là là, c'est un bon arbitre de VAR. Hein.
Il est bien, il est bien.
Certains
est bien.
Devraient en prendre de la graine.
C'est l'école Garibian, ça se croit.
Alors, je vais me charger du deuxième tacle. Alors là, j'ai très très peur. Donc là, j'y vais vraiment les deux pieds décollés du sol en sachant que je vais me faire sortir. Mais ça me fait plaisir. Alors.
Kamikaze le baraco.
C'est ça. Paul Pogba, oui, a délivré une passe décisive magistrale pour le deuxième but de Benzema. Oui. Paul Pogba a décoché une frappe monumentale qui a failli faire but et être le plus beau but de la compétition. Mais après, qu'est-ce qu'il y a dans ce match de Paul Pogba ? Pour moi, Pogba est un intermittent du spectacle qui ne joue que entre 10 et 15 minutes par match, ce qu'il fait déjà avec Manchester United, on a pu le voir cette saison. Le reste du temps, il marche. Si on regarde ses statistiques, elles ne sont pas exceptionnelles. 5 ballons perdus hier et seulement un duel gagné et aucun tacle. Heureusement que N'Golo Kanté est là pour compenser et faire le boulot que Pogba ne veut pas faire. Depuis le début, vous savez combien de ballons a récupéré Pogba ? 7 ballons récupérés en 3 matchs. Il a parcouru 28 km quand Kanté a récupéré le double de ballons et a parcouru 4 km de plus. Un joueur talentueux n'est rien sans le dépassement de soi et parfois le sacrifice. Et on peut mettre Paul Pogba en miroir avec Griezmann qui abat un boulot ingrat qui est aussi doué techniquement et avec la même vista que Pogba, pardon, mais lui n'hésite pas à faire des efforts, n'hésite pas à se sacrifier et même à dépasser sa fonction. Alors, Paul Pogba, c'est un immense joueur, mais il doit faire mieux pour l'équipe de France et il doit faire mieux aussi pour lui-même.
Ah, moi, je mets le carton rouge direct, sans même réfléchir, monsieur Baraco. Non, pour moi, Pogba, il a tout simplement été hier le meilleur Français sur le terrain. Alors, évidemment, il y a les deux buts de Benzema, donc ça fausse un peu le regard, mais... Il n'y a pas que du faux dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours cette frustration avec Pogba de se dire qu'il en a encore sous le pied. Mais c'est un peu c'est parce qu'on ne prête qu'aux riches et on sait qu'il est capable de choses extraordinaires. Moi, je constate, un peu comme pour Mbappé, mais peut-être encore plus pour Pogba depuis le début du tournoi, que la France n'est dangereuse que dans ce qu'amène Pogba. Les buts, les actions dangereuses sont quasiment toutes venues de
l'Allemagne. On l'a
vu avec l'Allemagne. On l'a vu le jour de l'Allemagne. Et puis hier, pareil. Hier, il y a vous parler, la passe sur le but de Benzema, elle est exceptionnelle. Elle est stratosphérique. Il a fait une passe extraordinaire pour Mbappé en première période qui aurait mérité également un but. Et on n'a pas beaucoup de joueurs, on manque peut-être de ce talent-là dans l'équipe de France, c'est lui qui déclenche les sauts. Alors oui, peut-être que dans le travail de récupération du ballon, il est peut-être un peu en dessous. Je suis surpris, en écoutant votre propos, Florent, ton propos, qu'il n'ait couru que moins de 10 km par match en moyenne depuis le début de l'Euro. Ce qui me semble au contraire, physiquement, même s'il a eu, un match compliqué contre la Hongrie, hein, comme beaucoup d'autres. Mais pour moi, c'est Pogba. Alors, le défaut qu'il a, et j'imagine la frustration des supporters de United quand ils voient le Pogba en bleu, c'est que c'est un joueur de tournoi. Et effectivement, sur une saison, sa régularité est à mettre en cause. Mais sur un tournoi comme celui-là, on peut lui faire confiance. Et je pense qu'on a vu, pour l'instant, on n'a pas encore vu le meilleur de Pogba qui va arriver.
Non, mais il y a une vraie frustration dans le fait qu'il peut faire beaucoup plus. Et l'équipe de France pourrait être dangereuse plus souvent dans le match.
Pogba, c'est un joueur merveilleux. C'est un joueur exceptionnel qui a tout. C'est-à-dire qu'il va vite. Il est puissant. Il est élégant. Il a la technique. Et d'ailleurs, ses entraîneurs se tournent un peu. Ils l'utilisent à gauche, à droite, à la récupération, meneur de jeu. Il peut tout faire. Donc, il est un peu victime de ça aussi. Mais c'est un joueur merveilleux.
Adrien,
je rejoins Stéphane et je me demande même à la commission de discipline d'être très sévère, de ne pas laisser passer ce genre de faute. Je comprends pas qu'on puisse comparer même le registre de Kanté et Pogba, qu'on puisse comparer les kilomètres, le nombre de ballons récupérés, parce que pour moi, ce sont pas les joueurs du même registre. C'est pour ça aussi que Kanté évolue en 6 quand il est en pointe basse et que Pogba est censé être le premier distributeur du jeu. Et pour moi, ça restera vraiment son rôle. Et je pense même qu'on peut se poser la question de quelle est la place désormais de Paul Pogba dans notre imaginaire, notre collectif du football français, parce que ça commence à faire beaucoup de prestations de très haut niveau, notamment en tournoi. Évidemment, on pense aux supporters de Manchester United qui va être frustré, mais est-ce que c'est Manchester United qui utilise mal Pogba? On peut aussi se poser la question. La renverser, quand on voit comment il est mis finalement dans un fauteuil par Didier Deschamps, c'est aussi sa force. Et je trouve que voilà, réussir à dire que Pogba est frustrant, c'est légitime, mais le prendre sous cet angle-là, je trouve que c'est extrêmement sévère.
Est-ce que Paul Pogba peut se concentrer plus d'un mois, notamment dans son hygiène de vie, parce que c'est la critique qu'on lui fait. Hein.
C'est une question. Bon, après, il a eu une très très grosse blessure l'année dernière, hein, qu'il a tenu éloigné longtemps des terrains. Mais oui, il y a sans doute une question sur la régularité de Pogba. Ça, j'en conviens avec vous. Mais par exemple, la Coupe du Monde 2018, il est l'un des facteurs majeurs de la victoire des Bleus.
Olivier.
Moi, je vais demander à l'UEFA de se saisir de ce tacle. Il faut une suspension assez exemplaire contre toi, Florent. Florent, il faut vraiment se décrocher des statistiques, surtout sur le cas Pogba. Pourquoi ? Parce que Pogba, c'est un joueur qui a de la vista. Dès qu'il a le ballon, on le regarde. Parce qu'il peut, faire quelque chose d'assez incroyable. On l'a vu avec sa frappe d'hier. Juste avant sa frappe, la petite... le petit râteau, la petite roulette qu'il fait. La petite semelle, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, voilà. Et en plus... Ce qui est, bon, c'est pas de sa faute, mais il fait une frappe magnifique et ça inclut, la conclusion, c'est un arrêt, peut-être un des plus beaux arrêts, je trouve, de ce début de l'Euro. Donc voilà, Pogba, comme tu le disais assez justement, Stéphane, Pogba, voilà, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes et que du coup, comme il est complet, parfois il va être un peu en deçà sur certains registres selon son poste. Faut lui laisser aussi un peu le temps de monter, c'est le début de l'Euro. Je pense qu'il va pouvoir apporter quand même pas mal de choses. Je rappelle que la Hongrie, c'était pas un accident de parcours, mais peut-être un match à mettre entre parenthèses. C'est un peu difficile avec tous ces... Enfin, voilà, il y avait du monde dans les tribunes. Les joueurs étaient un peu moins... plus trop habitués à ça. Et puis le match contre l'Allemagne, où il a été extraordinaire. Je crois qu'il était même joueur du match. Il fait une passe extérieure du pied magnifique. Enfin, voilà, c'est... mais Pogba, c'est un joueur qui peut nous apporter vraiment beaucoup dans l'esprit du jeu, dans les passes, dans les petits gris-gris. Et ça, c'est très important, surtout dans les phases finales. Et c'est un joueur de tournoi. Et c'est vrai, c'est un joueur de tournoi.
Ouais, et puis, il a un rôle invisible pour nous, suiveurs, très important. C'est le fédérateur du groupe. C'est celui qui ambiance aussi un petit peu le groupe de Deschamps. Parce qu'il est solaire et il l'est vraiment. Bon, pour avoir eu la chance de discuter avec lui, c'est un garçon, quand vous êtes à ses côtés, qui rayonne.
Et je rajoute aussi, on a eu ce débat sur un autre podcast, on s'interrogeait de savoir pourquoi Loris était encore le capitaine. Pour moi, le capitaine, en fait, ça devrait être Pogba. C'est lui qui va parler à l'arbitre, qui négocie, c'est un meneur d'hommes, etc. C'est lui qui devrait porter le brassard.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
On l'avait vu dans le documentaire 2018 sur la vie des Bleus, quand il fallait prendre la parole dans le vestiaire pour remobiliser les troupes, notamment à la mi-temps de France-Argentine. C'est lui qui dit « Moi, j'ai encore envie de bouffer ces pattes de... » Voilà, en disant « Voilà, moi, j'ai encore envie de rester là. » Donc, Paul Pogba est essentiel et indéboulonnable en équipe de France.
Bien sûr, non, mais il y avait un peu de mauvaise foi. Je plaide ma cause. Non, mais on se dit que s'il mettait 10%, 15% de plus d'intensité... on serait, enfin, on n'aurait pas peur pendant les matchs, quoi.
Hier,
on
a. Non, mais on demande à vous, et votre propos était intéressant parce qu'on demande à Pogba de récupérer les ballons, de faire la passe décisive et d'être à l'arrivée pour marquer les buts. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut savoir pourquoi il est là. Moi, pour moi, il est là d'abord, justement, pour être l'éclaireur, pour être celui qui débloque le jeu des Bleus. On a besoin de sa qualité de passe, notamment, parce qu'on n'a pas, on manque de milieu de terrain qui ont cette qualité de passe et de joueurs qui ont cette qualité de passe pour notamment jouer avec les appels de Mbappé qui vont arriver et ceux qu'on a déjà vu de Benzema.
Bon, j'ose pas demander à la VAR parce que voilà.
La VAR ne comprend pas pourquoi, après tant de cartons jaunes et de cartons rouges, tu n'es toujours pas suspendu pour les podcasts et pourquoi c'est toujours toi qui les anime. T'as quand même eu une leçon d'Olivier Perrou qui vient de la NBA qui te dit de moins regarder les statistiques. C'est quand même le signe, c'est quand même pas rien.
Ah, j'ai bien fait de venir ce matin.
Et oui, j'ajouterais juste qu'en effet, moi qui n'apprécie pas spécialement ce joueur, le voir sur le terrain depuis le premier match, c'est quand même agréable. Et il ne faut surtout pas coller aux statistiques, surtout avec le type de joueur qu'il est, je pense. Donc, c'est un carton rouge, évidemment.
Voilà, 4 sur 4, c'est la première fois. Merci beaucoup. Adrien, tu vas peut-être payer.
Il faut appeler Dupond-Moretti pour vous sauver, il n'y a plus que ça. Voilà. Maintenant.
Je crois qu'il est un peu occupé en ce moment.
Il a perdu une élection.
Oui, cher Florent, cher Stéphane, cher sociétaire du Point, je suis venu vous dire à quel point j'ai apprécié cette phase de groupe. Alors oui, il y a eu des purges comme à chaque tournoi, les premiers matchs de l'Espagne et de la Suède, l'Angleterre brouillonne, mais globalement, je me suis régalé. Il faut bien prendre en compte le contexte de cet Euro. Après une saison épuisante sur le signe du Covid, les joueurs ont encore été capables d'élever leur niveau de jeu. Je sais bien que nous sommes des boomers, des nostalgiques, que nous admirons l'Euro 2000 et sa pléiade de joueurs charismatiques, que la Coupe du Monde 2006 et le Last Dance de Zidane nous émerveillent encore, mais il est essentiel d'apprécier aussi présent. Oui, cet Euro est de qualité. Je peux citer notamment la renaissance de l'Italie qui a coupé le cordon avec le Catenaccio, Lukaku et De Bruyne étincelant pour la Belgique, un groupe C très ouvert avec les Pays-Bas et ses individualités formidables, De Jong, Wijnaldum, Depay, Dumfries, le Danemark miraculé après le malaise d'Eriksen, une équipe conquérante et qui mérite amplement sa qualification, l'Ukraine, la République tchèque en surprise, l'Espagne qui avait fini de se réveiller, bref, c'était pas mal. Enfin, comment ne pas citer ce groupe F au match si imprévisible et sensationnel, un France-Allemagne de haute volée, un Portugal-Allemagne spectaculaire et un France-Portugal si haletant. On a été gâtés et même la Hongrie n'a pas à rougir. D'après vous, combien de temps cette équipe a été menée dans ce groupe ?
La stat, je crois que c'est 10 minutes.
Voilà, exactement, contre le Portugal. Donc, pour dans le groupe de la mort, ils s'en sont pas si mal sortis. Voilà, mon tacle s'adresse donc à ceux qui ne cessent de répéter que c'était mieux avant. Vous êtes tout simplement dans le déni. Cet Euro est très agréable à suivre. Il est encore temps de monter dans le train.
Intéressant.
Ah, j'ai été convaincu. J'ai été convaincu, vraiment. J'ai écouté notre ami développer son propos. J'ai été convaincu parce que c'est vrai qu'en tous les cas, on s'est rendu compte sur les dernières journées de groupe qu'il y avait du suspense à tous les étages, qu'on a vibré. On s'est presque pris hier à soutenir la Hongrie, ce qui est quand même assez improbable, avant que la compétition ne démarre. Donc non, je partage votre avis. Et en plus, il faut être indulgent parce que c'est une compétition, l'Euro, un peu comme la Coupe du Monde, qui arrive au terme de saison, qui sont très lourdes pour les joueurs. Et on voit des joueurs qui, physiquement, sont entamés. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi ce plaisir. Enfin, moi, j'ai ce plaisir, en tout cas, tous les deux ans, sur les grandes compétitions, de découvrir des nations qu'on ne connaît pas. Là, effectivement, on s'est un peu plus familiarisé avec le football hongrois. On redécouvre le Danemark. On a l'impression de les redécouvrir à chaque grande compétition. Bien vu. Belle prise de parti.
Oui, je partage aussi l'avis de Stéphane. C'est en effet, cet Euro 24, il marche. Et puis, pour revenir sur le groupe de la mort, qu'est-ce qu'on demande à un groupe de la mort, finalement? C'est qu'il soit très relevé, qu'on ne sache rien de l'issue sur la troisième journée. Et c'était un peu le cas hier. Enfin, on suivait le match, c'était relevé. On entendait les spectateurs hongrois.
On a eu un classement différent toutes les 10 minutes.
Voilà, exactement, qui changeait. Donc c'était vraiment, voilà, c'était relevé, c'était agréable. En effet, on a redécouvert le Danemark, qui a vécu un début de compétition quand même difficile pour les raisons qu'on connaît et qui a fait des très grands matchs par la suite. Le réveil le retour de l'Italie qui fonctionne. Je rappelle aussi l'Espagne qui ne marquait aucun but auprès. Enfin, c'était vraiment catastrophique au début. Ils en plantent 5 là sur la troisième journée. Voilà, c'est des choses qui font plaisir. La Hongrie en effet. Donc finalement, cet Euro 24, il marche bien.
Vous savez qu'il y avait que des groupes de la mort quand il y avait l'Euro à 16. Hein.
Oui,
il y avait des groupes.
Mais là, il y en a encore plus.
Bah non.
Mais c'est parce qu'il y a des surprises. Oui, non, mais il y a des surprises. Il y a des surprises. La Hongrie, voilà, il y a des nouveaux. Ça donne la chance à des.
L'absurdité de cet euro, quand même. C'est-à-dire que les troisièmes peuvent être qualifiés. Donc le Portugal, qui aurait dû être éliminé, est qualifié. Et qu'en plus, on risque de les retrouver en demi-finale. C'est-à-dire que le tableau est tellement mal fait qu'on risque de retrouver un adversaire en poule dès les demi-finales.
T'as raison, Florent, sur un point, c'est que je voudrais pas être belge. C'est-à-dire que prendre le Portugal en huitième de finale, c'est pas être le cadeau pour les Belges.
Ah, je prends mon pari, Stéphane. Je pense que le Portugal va sortir la Belgique. Je le prends ici, vous pouvez enregistrer.
Il adore faire ça. Toi aussi, tu mérites l'expulsion.
Le conducteur.
De quoi ?
C'était le prono, après.
Ah, bah pardon, excusez-moi.
Il va plus vite que la musique. Non, mais voilà, l'Euro à 24, c'est marrant, parce qu'en 2016, on avait découvert l'Islande. Là, on a connu un peu la Macédoine, c'était un peu l'attractivité. Mais dans les faits, ça fait plus de matchs. C'est des troisièmes qui sont qualifiés, ça n'a quand même aucun sens. En plus, on voit bien hier que le Portugal, dès qu'ils ont vu que la Hongrie avait une chance de passer, ils ont arrêté complètement de jouer et on s'est retrouvé un peu comme l'Allemagne-Autriche en 82.
Vous êtes quand même le seul fan de football à vous plaindre qu'il y ait trop de matchs de foot.
Parce que peut-être que j'en regarde toute la saison, moi. Que nous dit la VAR ?
Non, je suis plutôt d'accord avec Adrien. Moi, je me suis surpris à réapprécier le football, moi qui en regarde plus depuis un moment grâce à ces matchs de poule avec des belles équipes surprenantes, des beaux matchs. Cela dit, là où je rejoins Florent, c'est que les groupes de la mort, du coup, ne sont plus des groupes de la mort puisque plus personne ne meurt. Mmh. Et ça, c'est mon petit regret. Pareil, dans le tableau final, on a des premiers qui piochent des troisièmes, des premiers qui piochent des deuxièmes, des deuxièmes contre des deuxièmes. Et là, on se demande aussi quelle est la logique, quelle est l'équité de ce tableau. Après, sur la beauté des matchs, je te rejoins tout à fait. Donc, le tacle est tout de même licite.
Parce que si on regarde le tableau, la France aurait dû finir deuxième. Hein. On aurait été dans un meilleur tableau.
Oui, mais ça, c'est un classique.
L'Angleterre,
ça.
Et puis après, c'était la voie royale.
Ouais, affronter l'Angleterre à Wembley, ça va pas être du gâteau quand même. Même si, sur le papier, évidemment, on pense que la France est meilleure que l'Angleterre. Moi, je crois pas à tous ces petits calculs, Florent. Là, on était dans un groupe terrible, et le grand mérite des Bleus, c'est d'être sorti premier. Et je pense qu'ils seront capables de répondre. C'est une équipe qui va s'adapter au niveau de l'adversaire, je pense.
Mais le parcours de la France, ouais, c'est la Suisse, probablement l'Espagne ou la Croatie, puis après la Belgique,
l'Italie ou le Portugal.
Voilà, donc c'est quand même.
Bah, à un moment donné,
il va falloir le gagner, cet Euro. Hein.
Oui, il va quand même falloir gagner quelques matchs pour être champion d'Europe.
Et juste, je me permets, c'est vrai que ce système d'Euro 24 avec les meilleurs troisièmes, ça peut surprendre, mais je vous invite à voir ce qu'ont fait nos amis sud-américains avec la Copa América. Deux poules de 5 et les 4 premiers sont qualifiés. Alors autant vous dire que là, en termes de phase de groupe, ils ont inventé un système assez surprenant.
En tout cas, on a hâte d'être à la Coupe du Monde 2026 puisque nous serons 48. Donc ce sera formidable, voilà. Tout le monde
puis
sera
parce que c'est la vraie prochaine Coupe du Monde.
Voilà, c'est ça. Voilà, alors Stéphane, je vais te faire travailler. Tu dois annoncer le temps additionnel qui sera donc de... Je te le montre à la... Parce que tout est fait.
Tout est truqué. deux minutes de bonheur en plus.
Formidable. On en rêvait, on la coupe hein, et on la ressortira. Donc je vais vous demander deux pronos. Et le premier, c'est donc ce match, ce premier choc, ce sera Portugal-Belgique. On commence avec Olivier.
Moi, je vois bien quand même le Portugal sortir la Belgique. On sait que quand les phases finales commencent, Cristiano Ronaldo hausse son niveau de jeu. Allez, un petit 3-2 pour le spectacle.
Adrien.
Je rejoins mon ami Olivier. Je vais même plus loin dans le scénario. Le Portugal va sortir la Belgique au tir au but avec un dernier pénalty de
CR7. Magnifique. Stéphane.
Ouais, c'est rude, je suis pas très bon pronostiqueur. En plus, c'est deux pays que j'aime vraiment, deux équipes que j'aime vraiment, donc il n'y a pas de choix de cœur, ça serait plus facile à la limite. Bon, je vais dire la Belgique pour me distinguer
de mes
camarades. Et puis il y a un joueur exceptionnel en Belgique que vraiment alors j'adore Ronaldo aussi, hein, mais De Bruyne est une petite merveille du foot, donc voilà.
Emmanuel,
la VAR dirait aussi la Belgique. Je pense qu'ils vont coller, ils vont tenir au moins leur statut jusqu'en quart. On leur souhaite. Et je vois bien la Belgique aussi.
Non, j'ai un argument que j'ai oublié. Par contre, c'est qu'on ne veut pas retrouver le Portugal. Donc, on a déjà eu France-Portugal, on s'est régalé. Bon. On a envie d'avoir un France-Belgique.
Tout à fait. La petite revanche.
Voilà, 3 ans après, un France-Belgique.
Bah, je vais dire aussi la Belgique et assez largement. Je vais dire 3-1. Allez, je m'engage. Et après cette première phase. On avait fait déjà des pronostics pour savoir qui allait gagner l'euro. Donc, on va voir si on est toujours sur les mêmes.
Qui avait dit quoi, alors ?
On avait dit la France. Hein.
Ouais.
Unanime, non ?
Unanimité, la France. Ouais,
j'avais dit que la France allait marcher sur l'euro.
Il a dit marcher sur l'Allemagne, puis sur l'euro. Bon, bah, pas marcher sur la Hongrie, en tout cas.
Sauf Julien Rebucci.
Qui avait dit l'Italie.
Oui, pour continuer à partir en vacances en paix, il avait dit l'Italie. Ouais.
Et les origines avaient été très fortes aussi dans ce choix. Donc, Olivier, tu restes ?
Je reste sur mon pari de début de compétition. La France va gagner à l'euro. Finalement, c'est ça, on a marché sur ces phases de poule. Pourquoi ? Parce qu'on est qualifié, on finit premier en ayant fait des matchs nuls et une victoire où on n'a même pas marqué, où c'est un but contre son camp. Donc je trouve que sans trop forcer, on a fini premier du groupe de la mort. Donc techniquement, je trouve qu'on a marché sur ces matchs de poule et donc on continuera à marcher. On continuera à marcher sur cet euro.
Adrien, toujours ouais, la France ?
Je reste sur la France. Le plus dur est passé, on le sait, la phase de groupe sous Didier Deschamps, c'est toujours spécial, mais le meilleur commence maintenant.
Stéphane, alors on n'a pas eu ton prono.
Oui, bah je vous aurais rejoint. Je croyais aussi avant un coup que l'équipe de France était favorite. Je continue de le penser. J'oublie pas une chose importante, c'est que tout le monde a l'impression que lorsqu'on a fait l'enchaînement 98-2000, la victoire de 2000 avait été beaucoup plus simple que 98 quand on avait marché sur l'euro, etc. Ça avait été un euro extrêmement compliqué, que des matchs au couteau, etc. Là, ce sera aussi le cas. On voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de marge. On voit bien que on est une équipe qui inspire beaucoup de crainte, donc il y a des systèmes très renforcés face aux Bleus. Donc ce sera dur, mais on va aller au bout.
Emmanuel.
L'anti-France. L'anti-France.
Il va nous donner la Suisse.
Non, je ne vais pas vous donner la Suisse. Moi je rejoindrai Julien Rebucci. Je pense que les Italiens, avec leur folie et leur manque d'expérience, finalement, leur confèrent une espèce de folie qui peut les faire aller loin. Et alors, je ne sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas contre la France en finale ?
Non, c'est en demi.
Eh bien, c'est dommage. Eh bien, ça montre bien que cet Euro à 24, c'est n'importe quoi.
Et moi, je vais rester sur la France parce que, bon, on a tellement de marge. Et puis, on a...
Un but de Benzema, peut-être, en finale ?
Peut-être un but de Benzema ou d'Olivier Giroud. Et je vous rappelle qu'on a le meilleur entraîneur du monde. Donc,
ça, c'est vrai. Même si pour l'instant il n'est pas très inspiré.
Si, à chaque fois il ajuste.
Il ajuste, oui. Mais
je pense qu'il a trouvé.
Il s'est trompé clairement dans son 11 de départ hier.
Oui, il est. Ouais, oui. Et puis il est forcé, juste un petit moment. Il est forcé à ajuster. Là, hier, on a vu qu'il a mis Rabiot quand même en latéral. Donc c'est. Enfin, voilà, ça. On voit qu'il a. Mais il s'est adapté des choses.
Une compétition, c'est aussi la gestion de tout ça. C'est-à-dire il y a les blessures. Donc là, on a perdu deux joueurs, Digne et Dembélé. Enfin, je dis la France. Et puis il y a cinq joueurs français qui sont menacés de suspension pour le quart, donc il y a quand même ça fait aussi partie de la appréhension des choses.
Et puis la déception Koundé aussi, oui. Ce joueur que les Bordelais adorent, je comprends pas pourquoi.
Je suis obligé de répondre, comment on peut tomber sur un jeune joueur qui faisait sa première titularisation en sélection, qui n'était pas à son poste, tout le monde lui tombe dessus pour on va dire son stress, son pénalty, mais personne ne mentionne sa très bonne intervention à la fin devant Sergio Oliveira pendant que Varane et Kimpembe se rentraient dedans, bizarrement.
Bon, on répondra pas. Non. Au moins, Ben Yedder ne déçoit pas. Voilà, au moins. Hein. Je vais rebondir juste sur Deschamps. Deschamps fait une erreur par tournoi, je vous rappelle. Il avait fait une erreur à l'Euro 2016, première mi-temps contre l'Irlande du Nord. Il corrige, on va en finale. Il a trouvé son système. Il avait fait une erreur contre l'Australie en Coupe du Monde 2018. Il corrige, on va en finale. On gagne la Coupe du Monde. Donc voilà, il a fait son erreur hier. Ouais. Donc
c'est vrai qu'il a cette qualité. Et que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas, c'est effectivement de ne pas s'entêter. Quoi.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci Stéphane.
Merci à vous, c'était très plaisant.
Parce que c'était formidable de t'avoir. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et on peut t'écouter, parce qu'on va faire un peu de la promo. Même si, bon, les scores sont indécents, je le rappelle, mais faire de la promo pour nos amis de RMC, de BFM.
Exactement, j'ai la chance de vivre cet euro avec une rédaction passionnée, très vivante.
Eh bien, super. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve, nous, lundi pour l'avant-match. Donc, ce sera contre la Suisse. Merci beaucoup. À bientôt.
Le point.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.